Les recherches dont je vous parlais sont déjà anciennes, puisque les premières fouilles que j'ai montrées tout à l'heure ont été faites en 1972. Alors évidemment, ça date un petit peu. Je recycle un peu des vieilles recherches dans cette communication. Il faudrait que d'autres personnes s'intéressent aussi à la baie du Mont-Saint-Michel, au sud de la Manche, qui est un peu éloignée des centres universitaires. Alors le titre de cette communication, c'est donc la défense de la baie du Mont-Saint-Michel dans l'Antiquité tardive, donc Antiquité tardive à partir de la fin du IIIe siècle, IVe siècle, Ve siècle. Pourquoi la défense de cette baie du Mont-Saint-Michel? Donc qui dit défense, bien évidemment, dit envahisseur, contre qui va-t-on se défendre? Et qui dit également défense, dit qu'est-ce qu'on doit défendre, quels sont les sites que l'on doit protéger. Ces envahisseurs, on les appelle traditionnellement des Saxons. Donc ce sont des gens qui sont originaires de la mer du Nord, des rivages de la mer du Nord, du nord de l'Allemagne, du Danemark actuel. Ce sont probablement, quand on parle d'envahisseurs saxons, ce sont probablement des gens qui viennent de ces régions, mais qui ne sont pas tous saxons au sens strict du terme, qui peuvent être francs, qui peuvent être jutes, qui peuvent être angles. Donc tout un tas de peuples germaniques d'origine, et qui vont, à partir de la fin du IIIe siècle au IVe siècle, menacer les côtes de l'Empire romain, continental, la Gaule, mais aussi la Bretagne de l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre d'aujourd'hui. Ces envahisseurs vont provoquer la modification du système de défense de l'Empire romain. Dans le IVe siècle, on va voir se réorganiser complètement la défense de l'Empire. Et en particulier la défense des frontières, que ce soit les frontières maritimes, dont on va parler essentiellement, mais aussi les frontières orientales, comme la frontière du Rhin, par exemple. Et on va voir se développer toute une série de fortifications dont nous allons parler tout à l'heure. Si on doit défendre quelque chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, essentiellement, ce sont les ports. Et ce sont les lignes commerciales. Il faut bien voir que la baie du Mont-Saint-Michel, c'est une sorte de cul-de-sac au fond de ce golfe normand-breton, et les axes commerciaux qui viennent essentiellement du nord, donc de l'Angleterre, et les axes qui viennent de l'ouest en contournant la pointe bretonne, pouvaient arriver dans ce fond de golfe constitué la baie du Mont-Saint-Michel. Port-Bail au nord, où une agglomération gallo-romaine est connue depuis très très longtemps, une agglomération qui est mal définie, mal cernée, mais qui probablement s'étendait autour d'un port. Alors bien évidemment, quand on parle de port à cette époque-là, il ne faut pas imaginer un port en eau profonde, mais ce sont bien sûr des ports d'échouage, des ports qui sont situés dans des havres, dans des estuaires, et auxquels on peut accéder à marée haute. Donc Port-Bail au nord et Alette, donc à côté de Saint-Malo au sud. Là, ce port est beaucoup mieux connu par les fouilles que Loïc Langouette a pratiqué sur le site d'Alette pendant plusieurs dizaines d'années. Et le port d'Alette s'appelait Réginca. C'est le nom qui a donné ensuite le nom du fleuve, la Rance. Hein, Réginca, la Rance. Donc ces deux ports sont très connus, soit par les textes, soit par l'archéologie. Entre ces deux villes, entre ces deux sites, on voit qu'il y a la baie du Mont-Saint-Michel. Et que cette baie, elle, est beaucoup moins bien connue sur le plan archéologique. Alors, il faut imaginer que la baie du Mont-Saint-Michel, si vous connaissez ses abords, aujourd'hui, on a une étendue extrêmement vaste, découverte à marée basse sur des kilomètres. Il faut l'imaginer, bien sûr, dans l'Antiquité, tout à fait différente. C'est-à-dire que la baie n'est pas comblée comme elle l'est aujourd'hui, en grande partie. Comblé par les sédiments apportés par la mer, mais également par les sédiments charriés par les fleuves côtiers. Donc ici, vous avez une vue du 19e, milieu 19e, une gravure d'Henri Voisin, qui montre l'estuaire de la C, vue d'Avranches, avec le Mont Saint-Michel au fond. Et on voit, sur cette vue d'artiste, que la mer envahit profondément l'estuaire de la C, et donc que des navires peuvent y accéder relativement facilement. C'est une vue qui n'est pas tellement enjolivée au XIXe siècle, puisqu'on sait que des navires, des bateaux, des petits bateaux, pouvaient remonter assez loin, en tout cas au moins jusque sous les remparts d'Avranches, et pouvaient également remonter l'autre fleuve côtier qui est la Sélune, remonter probablement jusqu'à Ducé, donc sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, évidemment, de ce que pouvait être le site autrefois, mais quand il y a une très forte marée, comme c'était le cas ici, au mois de mars, il y a 2-3 ans, on voit que la mer peut presque retrouver le niveau qui était indiqué sur la gravure tout à l'heure. Donc on a probablement, dans le fond de cette baie du Mont-Saint-Michel, des sites qui ont pu constituer des ports d'échouage dans l'Antiquité. Alors, quels sont ces endroits? Il se trouve que la toponymie permet de retrouver certains de ces endroits. Donc, on va aller du nord vers le sud. Il y a tout d'abord le site de Genet, donc, qui est connu par des textes sous le nom de Genicius, probablement au VIe siècle. Et ce port, Genet, a été un port jusqu'à l'époque, à la fin de l'époque médiévale, mais un port situé maintenant à plusieurs centaines de mètres du rivage actuel. En revanche, au nord de Genet, il y a un promontoire au pied duquel se trouve un prieuré du Mont-Saint-Michel. Et au pied de ce promontoire de Brion, il y a une sorte de petite anse, aujourd'hui marécageuse, mais qui a pu, à l'époque antique, être probablement un site d'échouage. Si on descend vers le sud, on se retrouve sur la commune de Vince. Vince qui peut dériver, j'ai mis un point d'interrogation, d'un toponyme qui serait Vado Magus, Vado Magos. Le Magus, c'est le marché. Vadum, c'est le gué. Il se trouve que Vadum, c'est du latin et Magos, c'est du gaulois. Donc, ça fait un toponyme un peu bizarre. Mais on sait qu'il y a eu des gués qui permettaient de franchir la baie en cet endroit qui est le plus étroit. En particulier avec le port de Gisors, et Gisors, avec un RT pour terminer, est un ritum, donc un gué en gaulois, donc on pouvait franchir facilement, en tout cas on pouvait franchir les estuaires à cet endroit-là. De l'autre côté de ce promontoire qu'on appelle le Groin du Sud, il y a un lieu dit le Grand Port, et ce Grand Port est le point d'arrivée d'un chemin qui a été utilisé par les pèlerins du Mont-Saint-Michel pendant tout le Moyen-Âge, qui vient probablement du Bessin, mais qui est certainement un chemin bien plus ancien que le Moyen-Âge, un chemin qui permettait d'accéder au littoral. Au pied d'Avranches, on va retrouver là aussi un port. Donc ce port, je pense l'avoir identifié sous forme là aussi d'une sorte d'échancrure dans le littoral qui aujourd'hui est occupée par des prairies, mais qui a pu à un moment donné être accessible par les bateaux. Alors ce port, il s'appelait dans l'Antiquité Ingena. Ghéna étant probablement le terme qui désignait la baie, ou tout au moins le fond de la baie du Mont-Saint-Michel. Comme à Alette, on avait deux toponymes, Réginca pour le port et Alette pour la ville, à Avranches, on avait également deux toponymes, Ingena pour le port, situé donc au pied d'Avranches, et Leguedia, qui était le nom que la ville d'Avranches portait à cette époque-là. On continue vers le sud. Et au sud donc de la baie et au sud de la Sélune, on a un toponyme que l'on connaît là aussi au VIe siècle, qui s'appelle Issius, et qui peut avoir désigné pas seulement un point précis, mais une zone dans laquelle on peut sans doute observer deux ports, donc l'un qui s'appelle le Grand Port, plus vers le nord, à côté de la Roche-Torin, et un autre qui est le port de la Guintre, en fait un estuaire, de deux petits ruisseaux, l'Anguille et la Guintre, qui a pu là aussi être envahi par la mer à une époque ancienne. Et ces deux endroits-là, le Grand Port et le port de la Guintre, sont aussi des points d'arrivée de chemin, probablement très très anciens. Alors on voit qu'on a deux toponymes, Genisius et Issius, qui se terminent de la même façon. Ce toponyme, on le retrouve aussi en d'autres endroits de la Gaule, et en particulier, vous avez peut-être entendu parler du Portus Issius, qui est situé dans l'estuaire de la Canche, à Boulogne, et qui était le lieu de positionnement de la Classis Britannica, de la flotte romaine, pour la Bretagne. Donc on a ici des indices. Bien évidemment, sur le plan archéologique, il n'y a strictement aucun indice. Ce sont des indices toponymiques, des indices topographiques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de découverte qui permette de dire avec certitude que ces endroits étaient des ports à l'époque antique. Alors, qu'est-ce que l'on sait de la défense de la baie à cette époque-là? On utilise un document qui s'appelle la Notitia Dignitatum. Cette notice des dignités de l'Empire est un document administratif qui date de la fin du IVe ou du début du Ve siècle après Jésus-Christ et qui est une liste en fait des principaux chefs militaires, des principaux lieux de cantonnement des unités et des listes également d'unités sur l'ensemble de l'Empire, que ce soit sur les frontières maritimes ou sur la frontière orientale sur le Rhin. Alors dans cette liste, on peut donc retrouver un certain nombre d'endroits. Ces endroits, qui sont souvent des endroits fortifiés, sont souvent connus sous le nom de Litus Saxonicum, donc la côte ou le littoral saxon. En fait, au sens strict du terme, ce Litus Saxonicum désigne les fortifications situées plutôt sur l'île de Bretagne. Et pour la partie continentale, on trouvera le terme de Tractus Armoricanus, donc la défense de l'Armorique au sens très très large du terme. Donc vous voyez qu'on a un ensemble de fortifications qui encadrent littéralement la mer du Nord et la Manche, pour bien défendre ce canal, ce channel, pour le défendre contre des pirates qui venaient bien sûr du nord-est. Les Anglais ont beaucoup travaillé sur ce sujet parce qu'ils ont chez eux des fortifications d'une fraîcheur absolument étonnante. Donc si on reste sur la carte de France, vous voyez qu'il y a à la fois avec le rond, le point, les capitales de cités, les civitates, petits points qui correspondent à des villes, c'est surtout sur la Belgique actuelle, et puis les carrés surtout, qui représentent des forts, c'est-à-dire des endroits fortifiés, spécialement à cette époque-là, pour défendre les côtes contre ces pirates saxons. Et puis des endroits un peu annexes que les Anglais appellent signal stations et qui sont en fait des sortes de postes de guet ou de tours. Voilà ce que les Anglais ont chez eux. Ça, c'est le site de Portchester, sur la côte sud, et qui est une fortification romaine donc de cette époque-là, parfaitement conservée. On voit la différence de la défense du patrimoine entre la France et l'Angleterre. On a cette fortification carrée avec des tours à intervalles réguliers, murs à chaînage de briques. Et si elle est si bien conservée, c'est tout simplement parce qu'elle a été réutilisée au Moyen-Âge par le château que vous voyez dans l'angle à gauche et par l'église qui est dans l'angle en bas à droite. Donc on a réutilisé la muraille romaine, en fait, pour y installer un château après 1066. Donc les Anglais ont un grand nombre de fortifications de ce genre. Si vous allez en Angleterre, vous avez Portchester, vous avez Pevensey, vous en avez un grand nombre d'autres. Certaines ont disparu, mais souvent elles sont vraiment très très bien conservées. Alors sur le continent, on connaît les endroits où se situaient ces fortifications de ce Tractus Armoricanus. Alors vous voyez qu'elles vont depuis la Flandre jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Elles sont bien identifiées, à l'exception d'une qui provoque depuis maintenant, je ne sais pas, 150 ans, 200 ans, des polémiques à n'en plus finir, qui est la station de Granona, que vous voyez à côté, à gauche, de Rotomagus-Rouen et Granona. En fait, il y a deux termes dans la Notitia Dignitatum, il y a Granonum et Granona, qui, bien que se ressemblant, sont manifestement deux toponymes différents et deux endroits différents. Alors ce Granona, là, l'auteur anglais Stephen Johnson l'a localisé du côté du Havre, mais on l'a localisé essentiellement en Basse-Normandie et de Port-en-Bessin jusqu'à Granville, on a fait pratiquement toutes les côtes de la Manche pour localiser cette station. Alors les dernières hypothèses localiseraient Granonum Granona à Cherbourg et sur l'île d'Origny. Ce sont les hypothèses de Loïc Langouette, les plus récentes. À Cherbourg, Jacqueline Pilet-Lemière a fouillé il y a déjà plusieurs années maintenant aussi. Ça ne nous rajeunit pas, les restes d'un château de l'Antiquité tardive qui pourrait correspondre à ce Granonum. Et à Origny, on a encore les restes d'un petit bâtiment d'époque gallo-romaine qui pourrait avoir été une station contrôlant finalement la descente le long des côtes de la Manche. Alors cette notitia ignitatum, elle est très intéressante parce que non seulement elle donne des listes, mais elle fournit aussi des images. Alors bien évidemment, ce sont des copies médiévales de ce document du 5e siècle. Ces images ne remontent pas au 5e siècle. Et on a donc des petites vignettes qui sont censées représenter les endroits fortifiés de la notitia. Alors vignettes qui sont parfaitement allégoriques, hein, ça ne représente évidemment pas l'aspect exact des villes qui étaient fortifiées à l'époque. Vous voyez que pratiquement à chaque fois il y a une sorte de rempart et des maisons à l'intérieur, les tuiles rouges et puis le petit chemin qui permet d'accéder. Et donc on a sur cette page l'ensemble des indications depuis Blabia, qui est donc Blaye sur l'estuaire de la Gironde, jusqu'à Granono en bas et à droite, et on peut voir donc les trois stations qui vont nous intéresser. Sur la deuxième ligne à droite, Aleto, sur la dernière ligne à gauche, Constantia, et après Rotomago, on a Abrincatis, donc Coutances, Alette d'abord, Coutances et Avranches. Alors on va s'intéresser à ces trois villes qui sont autour de la baie, au sens très large, puisque Coutances est quand même un petit peu au nord. Voilà donc l'endroit qui nous intéressera dans cette intervention, de Coutances, Constantia à Alette, Aletum. Alors voilà ce que cela donne sur une vue de satellite. On voit que cette baie est vraiment une sorte de cul-de-sac. Sur cette photo, on voit tout à fait la forme presque circulaire de cet endroit, ce qui fait que les derniers Vikings qui sont arrivés dans cette région-là ont parlé de Ringfjord, fjord en rond, hein, pour parler de cette baie. Hein, David pourrait en parler mieux que moi. Donc on voit bien les trois villes, Coutances, Avranches et Alette, qui encadrent donc cette baie, et puis au large, l'archipel des îles Chausey. Alors on peut remarquer quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette baie, elle est bien délimitée par deux promontoires. Le premier que vous voyez en bas à gauche, donc au nord-est d'Alette, qui est la pointe du Grouin, qui s'avance profondément dans la mer. Et un petit peu au nord d'Avranches, on a la pointe de Granville. On voit bien les deux promontoires qui ferment la baie. Ces deux endroits sont extrêmement intéressants. A priori, il n'y a pas de fortification du Litus Saxonicum dans ces deux endroits, mais on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y aurait peut-être une hypothèse. Alors commençons par Coutances, dans nos trois villes de cette défense de la baie. Donc voilà la petite vignette de la notitia qui montre Coutances. Qui montre Coutances comme étant une ville fortifiée, comme le sont toutes les vignettes et toutes les villes de notitia. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Coutances, a priori, en tout cas d'après les découvertes archéologiques faites jusqu'à maintenant, n'a jamais été fortifiée. Donc certaines de ces villes sont montrées effectivement de façon tout à fait bizarre. Alors qu'est-ce que l'on peut imaginer, puisque Coutances est quand même dans la liste de cette notitia d'Ignatatum? On sait qu'il y avait à Coutances, ou dans la région de Coutances, un contingent un contingent qui s'appelait la Prima Flavia Gallicana Constantia, donc la première légion flavienne de Constance ou de Coutance. Donc de Constance, qui pourrait être l'empereur Constance Chlore, qui s'est beaucoup investi dans la défense du littoral et dans la réorganisation militaire des défenses, mais ça pourrait être aussi simplement de la ville de Coutances, puisque l'origine du mot de Coutances est tout à fait discutée, certains toponymistes disant que ça pouvait être tout simplement la Constance, le nom commun, Constance, qui aurait donné Constantia, comme on a d'autres endroits dans l'Empire romain qui tirent leur nom d'une qualité ou d'une chose dans ce genre-là. Alors, si on revient sur les fortifications, si Coutances n'est pas fortifié, et si la Noticia mentionne quand même une légion qui défendait cette région, où peut-elle être située ? Il se trouve que sur l'estuaire de la Sienne, donc ce grand havre que vous voyez à gauche, depuis Renierville qui rentre dans les terres jusqu'à Montchaton, eh bien à Montchaton, il y a une fortification proto-historique. Alors on la voit ici, vous avez la Sienne qui est en plus sombre en haut de la diapositive, vous avez la route qui passe avec le gué et l'ancien pont de la Roque, et vous avez donc en bas un promontoire tout à fait caractéristique. Donc la pente est ici, la pente est ici, la pente est ici, et là vous avez un très grand talus avec un fossé qui isole, donc on a un éperon barré caractéristique de peut-être de l'âge du bronze ou de l'âge du fer, et qui est donc au-dessus du gué qui permettait de franchir cet estuaire, donc un point de rupture de charge. Alors l'hypothèse est que cet éperon barré, cet oppidum, pourrait avoir été le lieu désigné par le mot Constantia dans la Noticia d'Initiatum. Il aurait pu très bien accueillir un contingent de soldats qui, de là, pouvaient facilement surveiller l'entrée dans le havre de Renierville, dans l'estuaire de la Sienne, mais pouvaient aussi contrôler le gué qui permettait d'accéder à la ville de Coutances. Alors retenez bien ceci, parce qu'on a là ici une première indication d'une réutilisation d'une fortification antérieure pour être utilisée à cette période de l'Antiquité tardive. Alors, on a dit quelquefois, je crois que c'était Langouet et Josseaume qui ont émis cette hypothèse dans un article il y a déjà un certain temps, un historien romain de l'Antiquité tardive, qui s'appelle Ammien Marcellin, avait parlé de Constantia Castra pour évoquer des fortifications situées le long d'un fleuve qu'il identifiait avec la Seine. Donc ces Constantia Castra pourraient très bien être en fait cet endroit-là, situé près de Constantia Coutances, et la Seine et la Sienne, ce sont deux toponymes, deux hydronymes qui sont quand même très proches. Donc Ammien Marcellin aurait très bien pu parler de cet endroit en confondant Seine et Sienne. Donc voilà un premier endroit qui est une des fortifications de cette Noticia. On va passer à l'autre extrémité de la baie, à Alette. Donc voilà la vignette de la Noticia. Et voilà donc le site d'Alette. Alors si vous connaissez Saint-Malo, Saint-Malo est en haut complètement de la diapo, sous le cercle de géoportail, là, et le site d'Alette est ici. Donc on voit une presqu'île très très bien isolée, et en bas, dans le cercle jaune, on a l'emplacement de ce qui a été identifié comme étant le castellum d'Alette, c'est-à-dire le château, l'endroit où le chef de la garnison qui défendait le littoral avait donc son quartier général. Alors voilà comment cela peut être identifié par les archéologues. Alette fortifiée par le trait noir que vous voyez ici, avec les carrés noirs qui sont des tours. Et en bas, avec les lettres CA, vous avez le castellum, qui était donc légèrement décalé par rapport à la ville fortifiée elle-même. Voilà ce castellum qui a donc été fouillé très très longuement par Loïc Langouette, Et ce castellum étant donc l'endroit qui est le lieu où se trouvait le chef du contingent. Là aussi, on a quelque chose de très intéressant parce que ça a été récupéré au Moyen Âge. Si vous connaissez Saint-Malo, le T qui est en haut, c'est la tour Solidor. C'est une tour dans laquelle aujourd'hui, dans laquelle il y a un musée des Caporniers, je crois, une tour de la fin du Moyen Âge, mais dont la base est gallo-romaine. Alors passons maintenant à Avranches. On va s'intéresser un petit peu plus longuement. Donc autre ville de cette ligne de défense. Donc Avranches, la partie qu'on appelle la vieille ville, est entourée par un rempart qui a subi des réfections à diverses époques, qui est difficilement lisible aujourd'hui. On a la chance d'avoir des dessins qui ont été faits au XIXe siècle, qui montraient une partie des fortifications qui n'est plus visible aujourd'hui. Et cette partie que vous avez ici vous montre un mur en petit appareil réticulé avec une ligne de chaînage de briques. Donc tout à fait typique des murs gallo-romains de cette époque, ce qu'on retrouve d'ailleurs à Alette. On trouve également dans certains endroits de la muraille d'Avranches des pierres de grand appareil, comme celle qui est sur la réglette ici, qui viennent vraisemblablement de destruction de bâtiments gallo-romains d'Avranches, réutilisées pour l'érection d'un rempart, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits en Gaule. Alors, on peut en déduire ceci. Ceci, ça serait le schéma de la fortification d'Avranches à cette période-là. Le rempart qui épouse pratiquement le quartier qu'on appelle la vieille ville et un castellum qui serait identifiable au sud-est de cette ville fortifiée à l'emplacement de ce qui deviendra par la suite le château d'Avranches. Alors voilà ce que cela donne avec une vue aérienne. Vous voyez que les murailles sont assez visibles à droite, même si c'est beaucoup de réfection. Et en pointillé rouge, je vous ai indiqué donc l'emplacement possible de ce castellum, qui aurait donc hébergé à cette époque-là une légion de cavaliers et de fantassins d'origine dalmate. Il faut dire qu'à cette époque, on est dans une sorte de barbarisation de l'armée romaine, c'est-à-dire qu'en fait, on incorpore dans l'armée romaine tout un tas de contingents venant de peuples germaniques, ce qu'on appelle des lettes. Alors voilà ce que ça donnerait en plan. Le 1, c'est l'emplacement du donjon médiéval, tel que David Nicolas Méry l'a identifié. Et en 2 et 3, les deux parcelles qui sont toujours très très bien délimitées aujourd'hui, qui pourraient composer le castellum. Donc vous voyez qu'on a, non pas dans la forme, mais au moins dans les dimensions, quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on avait tout à l'heure à Alette. C'est-à-dire qu'on a une superficie, je crois, qui était de 2500 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose d'assez important pour pouvoir abriter le quartier général d'une garnison. On constate que au A, B et C, on retrouve dans la muraille d'aujourd'hui des réemplois gallo-romains tels que je vous les ai montrés tout à l'heure. Alors est-ce que autour d'Avranches, on peut identifier un dispositif un petit peu plus complexe qu'une simple lieu de cantonnement ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce port d'Avranches qu'on peut donc identifier ici. Donc vous avez à droite l'Egedia, la ville gallo-romaine, là où se trouverait le castellum, en haut du promontoire qui domine l'estuaire. Et vous avez donc en bas le port d'Ingena. Donc vous voyez qu'en gris, là où c'est inscrit la roche, vous avez donc l'emplacement possible de ce port d'échouage, avec sur certaines cartes anciennes l'indication à l'ouest du port Saint-Jean. Donc on a probablement ici le lieu d'échouage des navires au pied d'Avranches. Donc ce port étant situé vraiment au bas d'Avranches, devait être protégé. Alors, s'il est protégé, il est forcément protégé un peu en amont, c'est-à-dire plus vers la baie. Vous voyez ici une vue prise du nord-ouest, avec au centre l'estuaire des deux fleuves. Vous voyez la fourche qui est à gauche de la photo. Au nord, c'est l'estuaire de la Sélune, et au sud, l'estuaire de la Sé. Et on voit, sur la partie gauche de la diapo, on voit se distinguer dans le paysage, d'après remembrement, deux lignes de haies qui sont parallèles. Voilà ce que ça donne vu de plus près. Et on distingue très nettement les trois côtés d'une fortification que l'on appelle encore aujourd'hui le Grand Dyck. Alors le terme de dyck renvoie, par exemple, au Hagdyck, renvoie aux Vikings. Probablement, dans la mémoire populaire, on a associé ce talus aux Vikings. Mais il est fort possible que cette fortification soit plus ancienne que les invasions des Normands. Alors voilà ce que ça donne sur un plan. Donc c'est à l'envers, hein, le nord cette fois-ci est en haut. On a deux toponymes autour de ce grand dyck, l'Elinette et aussi le camp. Et on a en fait un très grand talus qui fait pratiquement 300 mètres de long, avec sans doute une adjonction vers le bas de la photo, donc vers le sud, qui permettait de rejoindre le chemin qui est indiqué par un numéro 13. On va en reparler tout à l'heure. Alors sur ce talus a été fait un sondage, il y a déjà quelque temps maintenant, qui a permis de voir que ce talus était précédé donc à l'ouest, c'est-à-dire dans la direction d'où pouvait venir le danger, d'un système de fossés. Donc un double fossé, un premier fossé au pied du rempart et un second fossé, beaucoup plus profond et beaucoup plus large, en avant. Donc on a un système de double fossé de profondeur différente qui ressemble assez à ce qu'on a l'habitude de voir dans les fortifications romaines. Et cette fortification a été modifiée dans un deuxième temps, puisque le premier fossé a été comblé pour faire une sorte de petit glacis qui permettait d'avoir un fossé plus important. Alors le gros problème, c'est que cette fouille permet de voir ce talus est bien une fortification, mais n'a malheureusement pas permis de trouver d'éléments archéologiques qui pouvaient le dater. Donc on est réduit simplement à des conjectures. La menace vient bien sûr de l'ouest. On a un camp qui est au pied. Ce camp est très très près des deux endroits que je vous ai signalés tout à l'heure, le grand port, le port de Gisors, près d'un lieu, la ville, qui est probablement un habitat de l'Antiquité, et donc on a ensuite deux voies qui y arrivent, on a vraiment un endroit stratégique très très important. En plus, sur le plan topographique, on distingue vraiment toute la baie jusqu'à Cancale, et donc c'est une vigie extrêmement extrêmement importante. Un peu plus au nord de Vins, toujours le long de la côte, sur la commune de Carolles, il existe un oppidum qui a été répertorié depuis très très longtemps, qui a été observé par Mortimer Wheeler, l'archéologue anglais, bien connu, et qui, là aussi, a été... voilà, on voit très très bien le fossé, le talus à droite, qui délimite un espace extrêmement vaste, et on distingue l'autre côté. Voilà, ici on distingue un creux qui correspond au fossé de l'autre talus correspondant et parallèle au premier. Alors on est ici sur un site probablement de l'âge du fer, et voilà ce que ça donne en plan. Donc vous voyez ici le tracé du rempart. On voit que c'est un tracé qui au départ est probablement un tracé un peu polygonal, mais qui a été rétréci pour donner une fortification beaucoup plus régulière. Il faut imaginer que peut-être la partie qui est au-dessus de la falaise a probablement disparu par l'érosion. Alors là aussi, une fouille a été faite et a permis donc de montrer que ce grand talus était précédé là également d'un fossé, un fossé unique vers le sud, assez profond, qui montrait donc qu'on était bien en présence d'une fortification. Malheureusement, là aussi, peu de matériel archéologique. Quelques tuiles ont été, fragments de tuiles ont été trouvés dans des champs avoisinants, mais c'est à peu près tout. Alors ces deux endroits, le Grand Dic et le camp des Châteliers de Carole, étaient connus depuis très très longtemps, et puis récemment, en observant vraiment le parcellaire dans toute la région, j'ai pu identifier deux autres endroits qui sont peut-être des éléments qui viendraient s'ajouter à ce dispositif militaire, mais là avec beaucoup de questions. Vous avez à l'intérieur du cercle jaune une parcelle carrée qu'on distingue très très bien, qui se trouve au point culminant d'Avranches, de l'ensemble de l'agglomération. Donc vous avez en haut de la photo la ville fortifiée, tout en haut là-haut. Et vous avez donc ici au sud, dominant là aussi la baie du Mont-Saint-Michel, une parcelle qui s'appelle le champ des murailles. Alors souvent, dans la toponymie et la microtoponymie, ce type de nom, champ des murailles, champ muraillé, fait référence à des murs que l'on aurait trouvés en faisant des travaux agricoles. Et on pourrait avoir ici un exemple peut-être d'une station qui permettait, comme une sorte de vigie là également, de surveiller la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà ce que cela donne. En topographie, on voit bien la butte. Et une dernière observation a été faite, alors beaucoup plus au sud de l'estuaire de la Sélune, sur la commune de Poyer. On a un endroit qui s'appelle le Châtelier. Donc le Châtelier, c'est également le toponyme qu'on avait à Carole. Vous savez que c'est souvent un toponyme qu'on retrouve pour désigner des fortifications d'époque extrêmement variables. Et vous avez là aussi une parcelle qui se dégage très très bien, enfin plusieurs parcelles, mais une forme qui se dégage très bien, une forme carrée, qui permet là aussi d'identifier une plateforme qui pourrait avoir été une fortification. Il se trouve que cette plateforme, donc elle est complètement en bas, vous la voyez, avec le carré noir, le long du trait en pointillé, qui est un tracé de voie antique. Donc on est assez loin du guet sur la Sélune que vous avez en haut et à gauche. En revanche, l'estuaire de la Sélune présente la particularité d'avoir une vallée assez large. Et j'ai grisé l'endroit qui pourrait avoir été envahi par la mer dans ces époques anciennes, au moins par période de très forte marée. Et vous voyez que se dégage une sorte de zone bien abritée, parce qu'on a un resserrement de la vallée en haut, et bien abritée, qui pourrait là aussi avoir été un port d'échouage, puisque à droite, c'est l'agglomération de Ducé. Vous pouvez remonter des bateaux jusqu'à l'époque moderne. Donc là, on pourrait avoir également une fortification qui complète le dispositif. Voilà sur cette carte qui permet de récapituler l'ensemble. Le Castellum d'Avranches sur le promontoire. Les Châteliers de Carole, donc en avant. Le Grand Dic qui permet de contrôler l'estuaire avec une possibilité, puisqu'il y a un guet, de franchir l'estuaire et d'aller sur l'autre rive. Peut-être cette station des murailles au sud d'Avranches. Et enfin, le Châtelier permettant, lui, de contrôler le guet qui permettait de franchir la Sélune et peut-être ce port qui était à côté de cette fortification. Voilà, donc en conclusion, cette ligne de défense dans la baie du Mont-Saint-Michel, elle se caractérise par des cités fortifiées, que sont Avranches et Alette, mais pas toujours, puisque Coutances, qui est mentionné, ne l'est pas, en tout cas jusqu'à découverte plus récente. Et à la différence de l'Angleterre, où on a construit des fortifications de toutes pièces, et sur des sites où il n'y avait rien, on a apparemment, en Gaule, des fortifications réutilisées. Donc on a commencé par Montchaton tout à l'heure à côté de Coutances, on a sans doute réutilisé un éperon barré. On a vu Carole, on a réutilisé également probablement un oppidum. Et quelquefois on crée quelque chose de toute pièce comme était le camp du Grand Dic. Et enfin des routes stratégiques, puisque longeant la baie au sud et au nord, on a bien une route qui probablement préexistait, qui était une route de desserte simplement des villages de la côte, mais qui a pris un rôle, bien sûr, beaucoup plus important pour pouvoir acheminer rapidement les troupes de fortification en fortification. Voilà, je vous remercie.